Cheval de guerre, chapitre 10. S'il est possible d'être heureux au milieu d'un cauchemar, alors Topthorne et moi, nous fûmes heureux cet été-là. Tous les jours, nous devions faire ce même trajet hasardeux jusqu'à la ligne de front. Celle-ci, en dépit d'offensives et de contre-offensives quasi continuelles, ne se déplaçait que de quelques centaines de mètres dans un sens ou dans l'autre. Tirant notre charrette ambulance, chargée de mourants et de blessés en rentrant des tranchées, nous devînmes des figures familières sur la piste criblée de trous. Plus d'une fois, nous fûmes acclamés par les soldats en marche qui nous croisaient. Un jour, après avoir peiné, trop fatigué pour avoir peur, en traversant un tir de barrage dévastateur qui coiffait la route devant et derrière nous, l'un des soldats, avec sa tunique couverte de sang et de boue, s'avança, s'arrêta tout près de ma tête, mit son bras intact autour de mon cou et m'embrassa. « Merci, mon ami, » dit-il. « Je n'aurais jamais cru qu'on nous sorte de ce trou d'enfer. J'ai trouvé ça hier. J'avais pensé le garder pour moi, mais je sais à qui il revient de droit. » Il leva le bras et accrocha un ruban boueux à mon cou. Au bout du ruban se balançait une croix de fer. « Il faudra que tu la partages avec ton ami, » poursuivit-il. « On m'a dit que vous êtes anglais tous les deux. » Je parierais que vous êtes les premiers Anglais à gagner la croix de fer, et ça ne m'étonnerait pas que vous soyez les derniers. Les blessés qui attendaient devant la tente hôpital nous applaudirent et nous acclamèrent à tous les échos, ce qui fit accourir hors de la tente les médecins, les infirmiers et les patients qui les voulaient voir ce qu'il pouvait bien y avoir à applaudir au milieu de tout ce désastre. On accrocha notre croix de fer dehors sur la porte de notre écurie et les rares journées calmes où les bombardements s'arrêtaient et où on n'avait pas besoin de nous pour faire le trajet jusqu'au front, certains des blessés en état de marché venaient en balade de l'hôpital à la ferme pour nous rendre visite. Cette adulation me laissait perplexe, mais j'adorais ça. Je passais la tête par la haute porte de l'écurie chaque fois que je les entendais entrer dans la cour. Plantés à la porte, l'un à côté de l'autre, Topthorne et moi recevions notre ration inépuisable de compliments et d'adorations. Accompagnés parfois, bien sûr, de quelques gâteries bien accueillies, un morceau de sucre ou une pomme, par exemple. Mais ce sont les soirs de cet été-là qui restent si vivants dans ma mémoire. Souvent, ce n'était pas avant le crépuscule que nous rentrions dans la cour de la ferme en claquant des sabots. Et là, nous attendaient toujours près de la porte de l'écurie. Il y avait la petite fille et son grand-père. Ceux-là même qui étaient venus nous voir le premier soir. Les infirmiers nous confiaient à eux, ce qui valait aussi bien car, tout gentils qu'ils étaient, ils n'avaient pas la moindre notion de ce qu'est un cheval. C'est la petite Émilie et son grand-père qui insistaient pour s'occuper de nous. Ils nous bouchonnaient et soignaient nos plaies et nos meurtrissures. Ils nous nourrissaient, nous abreuvaient et Dieu sait comment. Ils trouvaient toujours assez de paille pour nous faire une litière bien sèche et bien tiède. Émilie nous confectionna une frange à chacun qu'elle nous attacha au-dessus des yeux pour empêcher les mouches de nous agacer. Et par les théâtres soirées d'été, elle nous menait paître dans la prairie en dessous de la ferme et restait avec nous à nous regarder brouter jusqu'à ce que le grand-père appelle pour nous faire rentrer. C'était une créature minuscule et frêle, mais elle nous emmenait partout dans la ferme en toute confiance, n'arrêtons pas de bavarder, ce qu'elle avait fait aujourd'hui comme nous étions braves et comme elle était fière de nous. Quand l'hiver revint et que l'herbe perdit sa saveur et sa bonne qualité, alors c'est elle qui grimpait dans le fenil au-dessus de l'écurie et nous jetait notre foin. Puis elle s'étendait sur le plancher du fenil et nous regardait par la trappe, tandis que nous tirions le foin du râtelier et le mangeions. Ou bien quand son grand-père s'affairait autour de nous, elle babillait gaiement, disant que lorsqu'elle serait plus vieille et plus forte, quand les soldats seraient tous rentrés chez eux, que la guerre serait finie, elle nous monterait toute seule pour aller dans les bois, mais un seul à la fois. Et que si seulement nous voulions rester avec elle pour toujours, nous ne manquerions jamais de rien. Nous étions à présent des vétérans aguerris, Topthorne et moi, et c'est cela peut-être qui nous poussait à repartir chaque matin pour les tranchées, au milieu du rugissement des obus. Mais il y avait autre chose. Notre espoir que ce soir nous serions de retour à l'écurie et que la petite Émilie serait là pour nous réconforter et pour nous aimer. C'était cela que nous attendions avec impatience. C'était à cela que nous aspirions. Tous les chevaux ont une tendresse instinctive pour les enfants. Ils parlent plus doucement et leur taille exclut toute menace. Mais Émilie était pour nous une enfant pas comme les autres. car elle passait avec nous chaque minute qu'elle avait de libre et nous prodiguait son affection. Chaque soir, elle veillait tard en notre compagnie, nous bûchonnait, nous soignait les pieds et elle était debout à l'aube pour veiller à ce que nous soyons bien nourris avant que les infirmiers viennent nous chercher pour nous atteler à notre charrette ambulance. Elle grimpait sur le mur à côté de la mare, juste chez là-haut, elle nous faisait de grands signes et même si je ne pouvais jamais tourner la tête, je savais qu'elle restait là jusqu'à ce que nous ayons disparu au détour de la route. Et quand nous revenions le soir, elle était là aussi, joignant les mains, tout excitée à nous regarder tandis qu'on nous dételait. Mais un soir, à l'entrée de l'hiver, elle ne fut pas là pour nous accueillir comme d'habitude. Ce jour-là, on nous avait menés plus dur que d'habitude parce que les premières neiges interdisaient la route des tranchées à tous les véhicules, sauf ceux à chevaux, et nous avions dû faire deux fois plus d'allers-retours pour amener les blessés. Épuisés, affamés, assoiffés, nous fûmes ramenés à l'écurie par le grand-père d'Émilie qui ne dit pas un mot, mais s'occupa de nous rapidement et traversa la cour en hâte pour rentrer à la maison. Topthorn et moi passâmes la soirée près de la porte de l'écurie à regarder la neige qui tombait doucement à la lumière vacillante de la maison. Avant même que le veillard revienne et nous mette au courant, nous savions qu'il se passait quelque chose d'anormal. Tard dans la soirée, il revint, la neige craquait sous ses pas. Il avait préparé les seaux de bouillie d'avoine chaude que nous avions pris l'habitude de descompter. Il s'assit dans la paille sous la lanterne et nous regarda manger. « Elle prie pour vous, » dit-il, en hochant lentement la tête. « Savez-vous qu'elle prie pour vous chaque soir avant de se coucher ? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Elle prie pour son père et sa mère qui sont morts. Ils ont été tués une semaine seulement après le début de la guerre. Un seul obus. Il n'en faut pas plus. » Et elle prie pour son frère qu'elle ne reverra jamais. Il avait juste 17 ans. Il n'a même pas de tombe. C'est comme s'il n'avait jamais vécu, sauf dans notre esprit. Elle prie aussi pour moi, pour que la guerre épargne la ferme et nous laisse tranquilles. Et à la fin, elle prie pour vous deux. Deux choses, elle demande. Un, que vous sortiez tous les deux vivants de cette guerre et que vous viviez à un âge très avancé. Deux, si tel est le cas, son souhait le plus cher est d'être encore de ce monde pour rester avec vous. Elle a à peine 13 ans, mon Émilie, et en ce moment, elle est couchée là-haut dans sa chambre et je ne sais pas si elle passera la nuit. Le médecin allemand de l'hôpital me dit qu'elle a une pneumonie. C'est un assez bon médecin, bien qu'il soit allemand. Il a fait tout son possible. À présent, ça dépend de Dieu, et jusqu'ici, Dieu n'a pas trop bien réussi dans ma famille. Si elle part, si elle meurt, ma petite Émilie... Alors la seule lumière qui me reste dans la vie s'éteindra. Il nous regarda de ses yeux tout pleins de grosses rides et s'essuya les larmes de sa figure. Si vous pouvez comprendre quelque chose à ce que j'ai dit, alors priez pour elle, ce Dieu inconnu des chevaux auxquels vous adressez vos prières. Priez pour elle, comme elle le fait pour vous. Toute la nuit, il y eut de violents tirs d'artillerie et les infirmiers vinrent nous chercher avant l'aube pour nous sortir de la neige et nous atteler. Nous ne vîmes pas de traces d'Émilie ni de son grand-père ce matin-là en tirant la charrette dans la neige fraise encore vierge. Il nous fallut toutes nos forces rien que pour la haler jusqu'à la ligne de front. La neige déguisait parfaitement les ornières et les trous d'obus, si bien que nous nous retrouvions peinants pour nous dépêtrer des congères et plus profond de la boue qui cédait sous nos pas. Nous réussîmes tout de même à atteindre les lignes, mais seulement avec l'aide de deux infirmiers qui sautaient à terre chaque fois que nous étions en difficulté, et faisait tourner les roues à la main jusqu'à ce que nous soyons dégagés et que la charrette puisse se remettre en mouvement dans la neige. Le poste de secours en arrière des lignes était bondé de blessés et nous dûmes ramener une cargaison plus lourde que jamais auparavant, mais heureusement le chemin du retour était presque tout le temps en descente. Soudain, quelqu'un se rappela que nous étions le matin de Noël et ils se mirent à chanter durant tout le chemin de retour des Noëls lents et harmonieux. La plupart des blessés avaient été aveuglés par les gaz. Dans leur douleur, certains, tout en chantant, pleuraient leur vue perdue. Que d'aller et retour nous fîmes ce jour-là. Et nous ne nous arrêtâmes que lorsque l'hôpital ne fut plus en mesure d'accepter personne. Quand nous arrivâmes à la ferme, il faisait déjà nuit, une nuit pleine d'étoiles. Le bombardement s'était arrêté. Nulle fusée éclairante pour illuminer le ciel et éteindre les étoiles. Pas un seul coup de canon tandis que nous remontions le chemin de la ferme. La paix était revenue pour une nuit, une en tout cas. Dans la cour, la neige était rendue craquante par le gel, une lumière dansait dans notre écurie, le grand-père d'Émilie sortit dans la neige et prit nos rênes des mains de l'infirmier. « C'est une belle nuit, » dit-il en nous faisant entrer. « C'est une belle nuit et tout va bien. Il y a de la bouillie d'avoine, du foin et de l'eau. Je vous ai donné un supplément ce soir parce que vous avez froid, mais parce que vous aviez prié. Il faut que vous ayez prié votre Dieu des chevaux parce que mon Émilie s'est réveillée à l'heure du déjeuner. Elle s'est assise dans son lit. Mais oui, mais vous savez quelle est la première chose qu'elle a dite? Je vais vous le dire. Elle a dit, il faut que je me lève, il faut que je leur prépare leur bouillie d'avoine pour leur retour. Ils vont avoir froid, ils seront fatigués. C'est ça qu'elle a dit. Le seul moyen qu'a trouvé ce médecin allemand pour la faire rester au lit, ça a été de vous promettre double ration ce soir. En plus, elle l'a fait promettre que ça continuerait comme ça tant qu'il y aurait ce temps froid. Aussi, mes beaux, entrez et mettez-vous en plein la panse. On a tous eu notre cadeau de Noël aujourd'hui, pas vrai? Alors tout va bien, je vous dis, tout va bien.